qui sont relativement simples et qui permettent de comprendre comment s'organise l'ensemble des systèmes vivants en biosphère, mais qui datent de 15 ans, 20 ans au maximum, et qu'il est urgent de diffuser. Si bien que, à côté de la science physique, il y a un type de connaissance qui n'est pas une connaissance très abstraite. À preuve, c'est que je travaille depuis près de 8 ans maintenant avec des enseignants de l'Ouest, que je vais le 26 dans la Nièvre, un autre type d'enseignant, même obédience d'ailleurs. C'est très underground, c'est très de l'ouvert. Et qui, depuis près de 8 ou 10 ans, sont en train d'enseigner chez des professeurs de mathématiques, de l'histoire et géographie, de dessin, n'importe quoi. La nouvelle grille des enfants de 8 à 14 ans, avec lesquels, par exemple, ils m'ont fait passer de 1h d'après-midi à 6h avec des gosses de 8 à 14 ans. On a enregistré un disque qui se balade maintenant toujours en underground sur forme de 1500 exemplaires et qui permet à des gosses de 8 à 14 ans d'expliquer ce qui me semble si difficile d'expliquer à des adultes, c'est-à-dire des choses simples qui permettent d'avoir, à ce moment-là, dans les comportements et dans la pratique de ce qu'on peut appeler l'autogestion, une compréhension des phénomènes que, comme l'a dit tout à l'heure l'intervenant, la thermodynamique ne peut pas... Tant qu'on existe, et je suis tout à fait d'accord avec lui, tant qu'on vira l'homme comme agent de production, tel que l'âme de la Noria qui tourne autour d'un puits pour faire monter l'eau en surface, et dont on peut calculer exactement la quantité d'avoine qu'il faut lui donner pour qu'il ne maigrisse pas, c'est-à-dire qu'il conserve sa force de travail, et que d'autre part, il puisse fournir le travail qu'on lui demande, eh bien, on n'ira pas très loin. Et je disais cet après-midi encore à la Balardière et à Muller que pour moi, le 21e siècle, ça ne sera pas cette science-là, ça sera la science des relations interindividuelles, mais une science, c'est-à-dire quelque chose qui dépassera le langage logique, le blablabla, dans lequel les philosophes, les psychologues, avec leurs tests, nous ont enfermés depuis qu'il existe une science des sciences humaines. Ça ne veut pas dire qu'il faut les nier, d'ailleurs, ces sciences humaines. Elles ont un apport considérable, mais il faut aussi leur adjoindre toute une connaissance qui est celle des processus vivants. Et ça, c'est des notions que tu as développées, d'ailleurs, enfin, c'est toi, je crois, ou... Non, c'était mon mère qui tout à l'heure. Ce sont des notions simples qu'un enfant de 8 à 14 ans comprend. La notion de système ouvert, système fermé, on a parlé de la cybernétique, mais pas simplement. Comme évolution dynamique dans le temps d'un système, la notion de système, qu'est-ce que c'est que des systèmes, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'une information, qu'une structure, et ça des gosses de 8 à 14 ans comprennent, comment se fait-il que les adultes ne le connaissent pas, parce qu'on ne leur a pas enseigné, pourquoi ne leur a-t-on pas enseigné, mais parce que dès l'enfance, on fait d'un enfant un agent de production, on lui apprend la table de multiplication et le problème des robinets pour qu'il fasse ses calculs et ses comptes à la fin du mois, qu'il soit un bon commerçant ou un bon technicien. Et on ne fait pas l'information généralisée qui est celle qui permet à ce moment-là de découvrir comment on peut organiser les rapports humains. Et je suis bien d'accord que l'autogestion, c'est uniquement une question de rapport humain, c'est une question de structure. Mais dans cette structure, ce sont les éléments, ce sont des hommes, les relations entre les hommes constituent une structure. Et ces hommes, ils produisent. Alors comme on ne peut pas détacher le système de la production de la structure interindividuelle, tant qu'on n'aura pas changé le système de production, on ne changera pas la structure, on fera l'expérience de Lille, on fera l'expérience de l'Allende au Chili, mais on aura transformé la structure interne d'un système englobé par un système qui n'a pas la même finalité, et on aboutira à l'échec. Donc je pense qu'il faut surtout développer ses connaissances, qui je répète sont relativement simples, à la portée d'un enfant de 10 ans, et qui permettent ensuite d'agir. Parce que dans l'autogestion, c'est bien joli, mais comment un homme peut-il, un individu, peut-il agir pour l'ensemble humain auquel il appartient, immédiatement, puis plus largement, puis encore plus largement, puis finalement, conformément à l'évolution des espèces humaines, comment peut-il agir s'il ne sait pas? Or, qu'est-ce que... Il se trouve, je vous racontais tout à l'heure, je crois que c'était mon maire, je vais très fréquemment en RSS, parce que l'Académie des sciences a traduit 3 de mes livres et qu'on verse des royalties, remis sur l'ongle, et c'est bien payé en RSS, travail intellectuel. ne peux pas les exporter, alors j'y vais, et derrière, et je rapporte du caviar. Et ça me permet de rencontrer des gens différents. Une chose très importante s'est faite en URSS. On a supprimé la propriété privée des moyens de production. On a retrouvé une hiérarchie. Cette hiérarchie, c'est encore l'exercice d'un pouvoir. Le profit, disait la logique du profit. Mais le profit n'est qu'un moyen d'exercer le pouvoir. Il y avait 36 autres moyens d'exercer ce pouvoir. Or, quand je suis allé en URSS il y a trois ans, j'ai rencontré un physiologiste yougoslave avec lequel j'ai passé 8 jours. Il parlait parfaitement le français, ce qui facilitait la communication. Et on a parlé d'autogestion. À ce moment-là, la CFDT m'avait demandé d'écrire ce petit bouquin qui s'appelle « Société informationnelle ». J'avais rassemblé des documents, ça n'emballait pas, et on me demandait tous les 2 ou 3 mois, alors vous y mettez, je n'avais pas l'intention de m'y mettre. Et là, le contact de ce physiologiste yougoslave, qui était autogestionnaire, et qui disait nous avons raté notre autogestion, et nous avons cherché ensemble à comprendre pourquoi on avait raté cette autogestion. Et on a découvert que c'était par le manque de connaissances, et pas de connaissances pratiques, pas de connaissances professionnelles. Le cadre yougoslave connaît son boulot, l'ouvrier connaît son travail, mais c'est le manque de ces informations générales qui ont...
Mais c'est faux, c'est parce qu'il avait une volonté déterminée, d'un projet politique déterminé, bordel. Enfin, t'as parlé de l'Espagne tout à l'heure, je ne sais quoi. Hein? Ce que tu dis, moi j'ai lu tes bouquins et j'ai été émerveillé parce que ça confirme mon expérience et mon vécu. Mais ce que tu dis n'a rien à voir avec le pacte de non-agression en 36 entre les puissances occidentales, la politique de l'URSS, du POUM et les anarchistes. Ça n'a rien à voir. Je veux dire que la Commune de Paris n'a pas échoué parce que les gens n'avaient pas la connaissance intellectuelle. Je veux dire que avant l'information, avant l'intellectuel, avant la science, c'est la connaissance, c'est le vécu. Et tu es un idéaliste parce que, comme dit Marx, tu as la tête sur les pieds, à l'envers, complètement.
Marx était un idéaliste, mon Dieu.
Moi, ce que tu dis dans ton bouquin, je l'ai vécu. Et ton bouquin m'a simplement confirmé par une démarche scientifique en laboratoire, hein, comme on dit in vitro, ce que j'avais vécu moi. Tous les révoltés qui mènent la révolte à bout, ils le vivent, ce que tu racontes. L'important, c'est d'organiser ces révoltés dans les structures sociales, économiques, politiques, etc. Ce qu'aucun parti ne fait actuellement, et nous tape sur la gueule, au contraire. Voilà ce que j'avais dit.
Je suis entièrement d'accord d'ailleurs avec ce qu'il vient de dire. Je crois que pour nous tous, pour la plupart d'entre nous, l'autogestion est une question de vie ou de mort. On n'a pas à attendre les recherches.
Mais tout ce qu'on a besoin actuellement, c'est de sous. Des sous, c'est tout.
Les premières expériences autogestionnaires n'ont pas attendu les scientifiques.
Il y a un tas de demandes de parole dans la salle. Je passe la parole brièvement à Gombert, il y a des paroles dans le fond par là. On vient de me dire aussi qu'il y a des camarades qui viennent de partir et qui ont dit que nous ne sommes pas des intellectuels, ils sont partis.
Directement. Ça fait déjà un certain temps que je l'ai demandé.
Oui.
Il y en a 20.
Ça se prend la parole, c'est comme la liberté, voilà. Bordel.
Voilà.
Alors je la prends, pourquoi me mets-tu?
Je vais dire qu'il y a des
intellectuels.
Je prends la parole.
Des tâches.
Pourquoi me mets-tu une étiquette intellectuelle?
Parce que moi, un camarade avait dit tout à l'heure, bon, dans quel sens vous faites vos recherches? Et puis ensuite, à quel niveau? Alors là, sur le niveau, je peux répondre. Car finalement, la recherche pratique expérimentale, elle se fait sur le tas. La recherche de forme, de relations égalitaires, ça se fait d'abord à travers les luttes sociales. Et ça se fait, et pas les luttes sociales comme cela, les luttes sociales organisées dans les syndicats.
Le fait que l'action
syndicale soit obligée pour faire face à son patron avec efficacité, obligé d'être en liaison avec une fédération professionnelle, avec une union régionale, c'est-à-dire d'avoir tout l'ensemble des informations sur sa situation, celle de sa branche du point de vue économique, mais celle des rapports de force politiques locaux, des possibilités d'alliance et de convergence des luttes. Il y a donc une série d'informations dans l'action qui sont indispensables. Et puis, deuxièmement, dans le cadre de la délibération elle-même. Parmi les grèves les meilleures, celles qui ont emballé probablement les camarades les plus réactifs tout à l'heure, à l'instant, Lorsque la grève LIP a été finie, nos camarades de la section syndicale de LIP ont fait une autocritique extrêmement sévère sur la démocratie dans cette action. Même si pour l'ensemble de la population c'était remarquable et un grand progrès, mais pour eux-mêmes, vous avez peut-être lu, certains d'entre vous au moins, LIP au féminin, le point de vue des femmes de LIP sur leur participation réelle aux décisions. Assez marginales, suivant le groupe dominant. Ces assemblées générales quotidiennes, c'était bien mieux qu'ailleurs, mais à LIP, comme ailleurs, il y avait deux ou trois leaders qui avaient de l'allure, non, toujours, de l'allure, de l'allant. Et l'équilibre à faire entre la délibération, le pouvoir de chacun dans la délibération et le rôle inévitable encore aujourd'hui dans les esquets, les mentalités, la manière de vivre, le rôle très important, quelquefois écrasant, de ceux qui mènent ces luttes, a donné lieu à des critiques, à des remarques. C'est ça la démarche concrète. Mais cette démarche concrète, elle ne vient pas seulement d'une expérience sans apport extérieur. Nous, nous voulons absolument nous servir des apports extérieurs, même si les bouquins d'Aboris ne sont pas directement lisibles, hélas, par la majorité des militants syndicaux, il n'empêche que peu à peu se diffusent dans la société un certain nombre de notions, finalement de décapages, qui permettent de comprendre, comme je disais tout à l'heure, mais en fait, il ne suffit pas de crier, il faut faire la révolution, on veut des sous, on veut le pouvoir, il faut comprendre pourquoi, à chaque fois que le pouvoir a changé de main, il a effectivement changé de main. Les mains d'une minorité, les passées aux mains d'une autre minorité. Et l'autogestion, c'est le pouvoir aux mains de la main, de la majorité, de l'énorme majorité, le pouvoir réel de décision. Et pour arriver à cela, que personne n'a encore jamais réussi à travers l'histoire, encore une fois, on a besoin du double aspect des deux là, qui parlent peut-être un peu trop depuis tout à l'heure, du double aspect de la recherche scientifique, théorique à partir d'une étude fondamentale et de la pratique. C'est bien le double aller-retour des deux par des biais, finalement, et par la discussion collective qui peut permettre le plus, finalement, le plus efficacement d'avancer.
Plus fort. Mais encore faut-il préciser ce qu'on entend par autogestion, parce que comme nos camarades, je suis d'accord, l'autogestion c'est une auberge espagnole. Et moi je vais dire ce que j'y apporte à cette auberge espagnole, ce que je pense c'est qu'autogestion c'est effectivement une répartition du pouvoir le plus près possible de l'ensemble de la population et prioritairement des travailleurs. C'est une définition très partielle, mais disons qu'on peut discuter à partir de cet aspect-là. Je pense que la science, telle qu'on la connaît et telle qu'elle est, et qu'elle sera encore pendant longtemps, c'est un ensemble, non pas de techniques, on essaie de nous faire croire, parce qu'effectivement, on nous fait une très bonne démonstration qu'il y a des choses techniques, des méthodes, d'approches scientifiques, de réalités concrètes qu'on cherche à mieux connaître. Or, en fait, la science, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la technologie, la science. La science est un ensemble institutionnel, un ensemble qui a été mis en place sous le système capitaliste auparavant. Avant, les gens cherchaient sous des escaliers. Ça n'avait rien à voir avec un appareil d'État qui avait un système scientifique à disposition. Et la Boris fait partie de ce système scientifique de l'État tel qu'il est. Bon, c'est normal et c'est très difficile de s'en sortir. Tous les universitaires sont extrêmement complices, même quand ils sont complètement contestataires. Je connais bien les lieux, j'ai pas envie de dire ce que je suis, ni au point de vue militant, ni au point de vue scientifique, parce que j'ai pas envie d'ajouter une once de plus-value à ce que je dis. Je pense qu'ici, chaque personne, en fait, sa propre expérience, c'est pourrait dire des choses sur la science. Sauf si effectivement, il travaille 12 heures par jour à une chaîne, il n'a pas tellement de lieux de confrontation avec la science, au moins son rapport est très dénué avec la science, il a subi, c'est tout. Bon, je pense que donc, la science, est bourgeoise et elle y est alors vraiment jusqu'à la moelle. Et je pense que cette science, ce n'est pas parce qu'elle est au service du capitalisme, je pense que dans la science, les gens sont imbibés de cette nécessité de servir le capitalisme parce qu'ils y sont intéressés personnellement. Et effectivement, que sont les scientifiques? Quel est le milieu des chercheurs? C'est un milieu extrêmement concurrentiel, extrêmement hiérarchisé, où effectivement on ne pense qu'à écraser le copain pour passer par devant. Hein, c'est ça le milieu scientifique, c'est pas autre chose, c'est la recherche du pouvoir et de la notoriété, même pas du podium. Arrivé à un certain stade, on peut rejeter le podium et même arrêter ses manies, parce qu'on est tellement haut, à tellement haut niveau, c'est tellement difficile. parce qu'on est à tellement haut niveau, de toute façon, on peut se permettre de dire la science, on s'arrête parce qu'on se met à philosopher sur la science, ça pourrait être dangereux. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis sur les manipulations génétiques? Il y a des gens qui faisaient des manipulations génétiques, bon, je ne vais pas enchaîner l'explication de ce que c'est, je vous dirais la guerre de l'oiseau, et qu'elle a enchaîné, je ne vois pas. Il y a des gens qui faisaient des manipulations qui étaient très avancées, qui se sont permis de dire, bon, on s'arrête parce que ça peut être dangereux et ça pose des problèmes d'ordre moral. Mais ce n'est pas ce qu'on demande aux scientifiques. On demande aux scientifiques, c'est de nous dire ce qu'ils font. Parce que nous, on veut les contrôler. C'est pas eux qui vont se contrôler, c'est pas leur père qui se
contrôle. Les gens dans le couloir n'entendent absolument rien. Alors, je sais bien. Mais il y a un temps aussi, un temps de demande de parole. Je vois Jeannette qui s'impatiente depuis une heure. Et puis Jeannette, d'après l'intervention du camarade, elle travaille 8 heures sur une chaîne parce que je la connais. Alors Jeannette.
C'est normal qu'il ait le micro, un autre l'a eu avant lui.
Oui, mais c'est
pas... Parle plus fort, Jeannette.
Attends, après, c'était intéressant. Oui, parce que...
Quoi? La question est posée au camarade Vinos-Bellet, comment expliquer la défaite de l'expérience au nouvel espionnage?
Oui, mais il n'avait pas...
Par la politique étrangère, la politique occidentale.
Bon, je continue. Donc je pense que les scientifiques à l'heure actuelle monopolisent un certain savoir et donc détiennent un certain pouvoir. Ce pouvoir, ils refusent de partager, y compris dans leur corps même, c'est à l'intérieur des scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie extrêmement bien divisée, et c'est le haut de la hiérarchie qui détient ce pouvoir. Et je pense que si ici il y a une bonne division du travail, eh bien, effectivement, on a malgré tout le même type de comportement entre le milieu que représente Henri Laborie et le milieu que représente Edmond Maire. C'est effectivement, je ne parle pas de l'extérieur du syndicat, je suis militant syndical, je prétends que effectivement,
on retrouve une même hiérarchie,
des mêmes politiques qui ont la connaissance, la science, comme on disait tout à l'heure Edmond Maire. Et cette science, il refuse de la partager. Il la monopolise dans un certain sens. Ce sont les permanents, les spécialistes de la politique, ceux qui effectivement s'expriment, qui réfléchissent au nom des travailleurs. Bon, tout à l'heure d'ailleurs, Edmond Maire a fait une remarque sur la science historique en disant que Lénine disait que la science était extérieure au prolétariat, qu'il fallait l'introduire dans le prolétariat, effectivement, mais c'est dommage que Edmond Maire s'arrête à 1902, parce que Lénine, ça a duré aussi après, il a dit autre chose après. Il a vécu, il a compris l'expérience d'un certain nombre de luttes prolétariennes, expérience qu'il n'avait pas en 1902. Bon, je pense que quand on parle de science, je vais revenir sur la science, hélas, je pense que quand on parle de science, il faut aussi, avant tout, se rendre compte que la science est une des activités de l'ensemble de la société. Une activité comme une autre. Seulement, il y a dans cette société, dans l'ensemble des sociétés qu'on connaît jusqu'à présent, une division du travail. Et il y a des spécialistes de la science qui font la science, et des spécialistes du bâtiment qui font le bâtiment. Effectivement, c'est un moyen de détenir le pouvoir de façon centrale. Et la seule façon de remettre en cause le pouvoir de façon centrale, le pouvoir des scientifiques centralisés ou le pouvoir des politiques centralisés, c'est de se battre pour une réelle autogestion, celle que j'appelle le pouvoir à la base, le pouvoir dans les conseils. Et les conseils, ça peut être dans l'entreprise ou sur son lieu d'habitat, mais c'est notre affaire à nous tous.
Fort.
Je vais essayer, excusez-moi, je vais peut-être un peu de revenir un petit peu en arrière, mais je vais essayer d'être clair. Pour moi, la production scientifique, c'est une production sociopolitique. En aucun cas, en aucune circonstance, on peut attendre quelque chose de vraiment intéressant pour renverser le régime de domination d'une production scientifique. Je prends un exemple. Si on regarde la période de la Révolution française, quelques années, toute la science bourgeoise, s'appuyant sur un modèle mathématique de type continu, quantitatif et analytique, se fait en très peu de temps. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que, à partir de, mettons, 30 et quelques, c'est-à-dire juste après 27, la discipline qui sert beaucoup à M. Laborie, à savoir l'analyse des systèmes, était mise au point par Bertalanffy, de moi avant ça. Maintenant,
en tant que science des ruptures, c'est-à-dire des changements de forme ou, plus exactement, des changements et des restitutions de forme. Ça se développe aussi, c'est la théorie des catastrophes de Tom. Et dernièrement encore, il se trouve qu'il y a encore autre chose qui, au point de vue fondamental, se développe, à savoir la théorie de certains espaces qui ne sont plus du tout les espaces mathématiques classiques.
Ah, c'est de la science.
On l'avait vu, à savoir les trucs qui pouvaient grosso modo être des extensions des espaces, par exemple, comme celui de la pièce à trois dimensions, des espaces qui sont architecturaux, mais des espaces de dimension fractionnaire qui permettent d'aborder tout un tas de problèmes qui sont aussi simples que des histoires de cartes marines, des choses comme ça. Si bien que, si vous voulez, je vais arrêter de donner des citations, mais pour moi, le problème est un problème d'autogestion généralisée. Donc un problème de prise de pouvoir. En aucun cas, on ne peut attendre, d'une part, que des gens modélisent au point de vue scientifique ce qu'on doit avoir comme objectif, et que d'autre part, des gens, et là je pense plus particulièrement aux gens qui sont dirigeants politiques ou dirigeants syndicaux, nous fassent la théorie des régimes de conflit. Tout ça, ça se réglera dans la lutte sociale, mais en aucun cas, on ne pourra s'appuyer valablement et rien que sur la production de gens qui existent déjà à l'heure actuelle dans le système et qui, soi-disant, produisent quelque chose d'essentiellement révolutionnaire. Ça, je ne le pense pas. Et c'est pour ça que je parle et que je voudrais qu'on revienne au débat fondamental, science et autogestion. J'aurais deux remarques précises à faire maintenant. La première remarque était faite, science avec un S et science sans S, n'était pas tout idiote. Parce que je vous fais remarquer quand même que M. Laborie essaie de vous dire que finalement ce qui s'est passé avant 15 ans, ici, n'était pas très intéressant. Donc au moins il faut faire le clivage entre les sciences biologiques et les sciences qui sont développées avant. Et d'autre part, quant aux petites digressions à propos de la relativité, c'est pas la peine d'en parler, on peut aller sur la Lune sans relativité, les calculs ont été faits.
Voilà. J'ai dit. Ce que j'ai dit.
Alors j'aimerais qu'on me dise, enfin j'aimerais qu'on débatte effectivement là-dessus.
La base ne comprend plus.
Je suis désolé, mais je suis la base, je comprends. La grande silence, je suis désolé. Il y a au moins 3 ou 4 bases.
Oui, très à propos, je pense que pour la majorité des gens qui sommes ici, l'autogestion n'est pas quelque chose d'extrêmement précis, extrêmement clair. Alors je voudrais demander justement à Laborie, je voudrais lui demander, lui qui a tellement bien expliqué dans ses livres, car s'il n'existe aucun modèle autogestionnaire en politique, il en existe au moins un dans le règne du vivant et qui se porte pas mal. Alors je crois que pour nous tous, il serait très intéressant s'il pouvait très clairement, très rapidement, nous expliquer comment fonctionnent les structures autogestionnaires dans un corps humain.
La question de la fille. Il y a une question aussi qui était à Mme Lassalle, c'était l'échec de l'expérience autogestionnaire en Espagne. Et comment nos camarades espagnols peut nous l'expliquer en deux mots, ça me semble intéressant aussi. Et l'échec de la guerre d'Espagne.
Un jour c'est l'autogestion en Espagne et l'autre jour c'est l'échec de la guerre civile en Espagne. Je voudrais savoir à comment venir pour répondre. Oui, l'autogestion, je ne considère pas qu'il y a un échec.
Non, il y a parfaitement
un échec même. Je ne considère pas ça. Parce qu'on l'a maintenu 3 ans.
Exactement.
Alors, et ça c'est l'histoire, mais l'histoire qu'on a écrit avec du sang. Je ne comprends pas la question. Je suis complètement con. La question, il a été très mal posée.
Mais tout le monde connaît la réponse de toute façon.
Non, je parle à la fond, je parle à la main. Parce que moi, je parle pas beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi, hein. Voilà. Je confirme que l'autogestion, je vous dis une chose, en Espagne, je ne sais pas si je l'explique bien ou non, on appelait rarement comme ça. On appelait collectivisation, socialisation, voilà. Ça dépendait des états de cette administration qui ce n'était ni plus ni moins, et quand il s'était de la consommation, on disait coopérative. Mais en quant à l'échec, il n'a pas eu d'échec, chers camarades, de tout. Et je voudrais que quelqu'un me dise qu'il a eu, parce que je ne vous ai pas nié qu'il a eu des échecs, mais on a parti en tombe à y remédier parce qu'on avait besoin. On avait besoin que les échecs soient en triomphe, parce que ça dépendait de ces échecs convertis en triomphe qu'on puisse survivre, parce qu'il s'agissait de ça, pas seulement de vivre.
Mais tu connais un peu l'histoire de la guerre d'Espagne, non?
J'invite un camarade qui j'aille en Espagne, qui l'accompagne et on va faire avant l'autre question. C'est pas des clous, non?
Je voudrais faire une question parce que depuis quelque temps, j'entends plein de gens qui redisent à peu près ce que je pense. Et seulement, j'ai l'impression chaque fois qu'ils partent un petit peu à côté. Alors, je m'excuse, moi je flippe à bord hein, parce que je suis là au milieu.
Ça va, récupère pas, mais...
Je vais essayer quand même d'expliquer ce que je pense là-dessus. Bon, d'abord j'ai entendu quelqu'un qui disait que pour être, tout le monde n'était pas confronté à la science. Alors moi je dis que tout le monde est confronté à la science. Quand je vois le médecin, derrière le bureau, il y a un type qui me raconte qu'il a des diplômes et au nom de la science, il me fait ingurgiter n'importe quoi. Bon. Ensuite, je veux rentrer dans n'importe quelle boîte. Qu'est-ce qu'on me demande? On me demande mes diplômes. Pour avoir des diplômes, qu'est-ce qu'on me fait faire? On peut faire n'importe quoi, hein, mais ce sont des trucs qui n'ont rien à voir avec la réalité que je vais vivre par la suite. Mais ce sont des trucs qui sont mathématiques et ce sont des sciences pour la sélection. Bon, alors, on m'entend comme ça? Bon, alors, il y a une sélection et qui est faite, par exemple, par la science, par les mathématiques, et là, je suis confronté à la science. Bon, il y a des tas de coins partout où chaque fois, par exemple, aujourd'hui, ici, nous sommes tous confrontés à la science. Parce que, il y a des gens, M. Laborie et d'autres personnes qui ont été contre lui, mais qui étaient exactement dans le même niveau scientifique, et qui racontaient des choses qui nous passaient vachement au-dessus de la tête. Hein. Et oui. Et qui passaient au-dessus de la tête d'autres personnes, et quand on a dit la base ne comprend pas, on a dit ah, la base ne comprend pas, alors là, elle va étudier je sais pas quoi. Bon, c'est un peu. Alors. Moi je dis un truc, ça serait intéressant que quand on parle, qu'on met la science en crédit, au moins, qu'on fasse gaffe à ne pas utiliser des mots scientifiques trop poussés, parce que alors là c'est pas la peine. Alors, le deuxième truc, je voulais reprendre alors ce qu'a dit.
J'ai reçu un message, tiens.
Non.
Il va dans ce sens-là, oui.
Non, tu le diras après.
10 personnes au moins, déjà 10 personnes au moins se sont barrées. En disant que c'était trop intellectuel. Bravo. Le message que j'ai reçu, je pense qu'il était intéressant de le donner.
Merci bien.
Non mais...
Bon alors, le deuxième truc... Le deuxième truc, c'est ce qu'a dit Edmond-Mère. Bon, c'est vachement intéressant. C'est justement tout l'analyse qu'il a faite sur Lénine avec l'avant-garde de la Révolution qui enseignait la science aux ouvriers. Bon, c'est vrai, il a vachement raison. Et là-dessus, il retombe dans le processus parce qu'il dit Monsieur Laborie va renseigner les relations humaines aux ouvriers. Alors là, moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que la seule manière de connaître et d'étudier les sciences humaines, c'est de les pratiquer. Alors, un, de les pratiquer, deux, de théoriser la pratique, c'est-à-dire que, quand ça ne marche pas, et bien, étant donné qu'on a confiance les uns en les autres, on s'explique pourquoi ça ne marche pas. Et voilà. C'est pas la peine d'étudier dans les livres.
Ça, c'est la dialectique, ça.
Étudier dans les livres, ça sert à distancier. Alors, Non, ça va. Alors, ce qu'il faut, c'est pouvoir, pour avoir une connaissance des relations humaines, il faut pouvoir les pratiquer. Et par exemple, on s'aperçoit que dans des grèves qui justement qui ont été des grèves de la CFDT, telles que Cerisé et Libre, les gens quand ils se sont retrouvés dans une situation où ils ont eu à pratiquer des sciences humaines, et bien ils ont retrouvé les trucs que M. Laborie sûrement avait découvert avant, mais qu'il était incapable de raconter à tout le monde parce que personne ne comprend son vocabulaire. Au contraire, quand les gens dans la grève se mettent ensemble et étudient leur comportement, alors là, ils vont beaucoup plus loin.
Non, je comprends. Bon, alors,
je vais suis en accusation depuis tout à l'heure, je ne vais pas pouvoir répondre.
La parole à Laborie.
Le dernier truc, c'est par exemple le MLF. Les trucs du MLF.
Laissez-le vivre enfin!
Vous ne voulez pas me mettre en accusation? Non, mais je. Mais alors là, vous êtes fasciste.
Mais laissez-le parler, bordel!
Justement, à propos des femmes, tu
permets
que j'en parle deux minutes,
s'il te plaît. Il
n'y
a pas de monopole, hein!
Parce que s'il y a un exemple où vraiment on peut illustrer la façon dont on peut émettre des doutes sur le rôle et l'efficacité de la science par rapport à l'autogestion et aux luttes, c'est bien la question des femmes. Parce que, d'abord, tu vas peut-être me détromper, hein, peut-être que je me trompe tout à fait, mais une étude scientifique des femmes en ce moment, qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait un constat physiologique, ça donnerait peut-être un constat psychologique et sociologique qui serait le reflet d'un état de fait, d'un état social. Est-ce que ça pourrait donner autre chose que ça? Est-ce que ça sortirait? Est-ce que ça donnerait une idée de l'aliénation dans laquelle sont actuellement les femmes, les sciences humaines? Est-ce que ça pourrait donner une idée de cette aliénation?
Certainement pas, oui.
Il y a tellement de choses. La première chose, je crois que nous sommes en train de nous battre pour des mots qui n'ont pas le même sens pour les uns et pour les autres. Vous m'avez mis une étiquette de scientifique. Et j'ai été content que quelqu'un dise tout à l'heure, au fond, les scientifiques, ce sont des professionnels d'une certaine discipline. S'il y en a parmi vous qui font des roulements à billes, ben, ce sont des scientifiques des roulements à billes. Je suis scientifique d'autre chose. Et je pense que d'autre part, le premier homme qui a cassé des cailloux, et puis celui qui ensuite a mieux cassé des cailloux et fait des facettes, étaient des scientifiques à leur époque. Et je pense que tout le monde peut être scientifique. Or, ce qui m'étonne, c'est qu'on ait dit tout à l'heure, lui, là, qui est fagite, hein, bon, qui tape ou machin.
C'est la connaissance, le mot exact, c'est la connaissance, c'est qui est plus vaste que mon science. Non, c'est différent, fondamentalement.
C'est exactement ce que j'ai prononcé tout à l'heure, c'est le mot que j'ai prononcé, connaissance, et non pas celui de science. On m'a foutu une étiquette qui était celui de scientifique, j'y peux rien, moi, bon. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire,
c'est pas une science.
C'est que... dans toutes les pratiques humaines, même celles de la pierre taillée, on commence par faire une hypothèse. Alors tu me parles de la praxis, mais la praxis est là. Après, je fais tous les jours la praxis. Tous les jours je pratique, et vous pratiquez dans votre milieu, vous pratiquez d'une certaine façon. Moi je pratique d'une autre façon, chacun de nous dans son travail journalier pratique. Mais s'il n'a pas une hypothèse de travail au départ, comment peut-il faire progresser sa pratique? C'est impossible. Donc on confond deux choses, c'est-à-dire le processus d'imagination et d'imaginaire que peut seul faire l'espèce humaine, et la mise en action, en pratique, de ce processus imaginaire, qui quelquefois va à l'échec, d'autres fois va à la réussite, et la réussite, la progression, l'évolution est liée à ça. Donc il ne faut pas séparer praxis, et les intellectuels, les types qui pensent, ben non, les types qui pensent, ils ne pensent pas à longueur de journée, ils pratiquent aussi, ils pratiquent dans une autre spécialité que la vôtre, d'accord? Mais il n'y a pas que la vôtre, mon Dieu, il y a la mienne aussi, puis il y a celle de celui-là, puis d'autres. Bon, donc il ne faut pas séparer l'hypothèse et l'action, ce sont deux choses qui sont complémentaires, qui ne peuvent pas aller l'une sans l'autre, et il ne faut pas attacher au terme de science un truc, une étiquette qui fait qu'on repousse ce gars, parce que si on ne se juge pas, si la société dans laquelle on vit ne vous fait pas qu'on juge comme scientifique, et je pense que parmi vous, puisqu'il y en a beaucoup qui sont partis, ils ne se sont pas jugés suffisamment scientifiques, on repousse le scientifique parce qu'il ne fait pas partie de votre monde, c'est tout. Et ce qu'on appelle le scientifique, je ne me considère pas comme scientifique.
Le bouton.
Ben, je sais pas.
Voilà, bon.
On sait maintenant.
Bon, mais moi, il y a une chose que je comprends pas. Hein. On parle d'autogestion, d'accord. Il y a que monsieur espagnol qui en parle vraiment. Et puis à part ça, l'autogestion n'en parle pas beaucoup. Alors on a parlé de médecine tout à l'heure, moi je suis vachement d'accord, je suis pour l'autogestion médicale, donc faire travailler par ma compte, enfin en général ce qu'on leur dit c'est des bêtises, donc ils viennent mettre forcément. Bon, d'autre part, moi je trouve que pour les femmes, il y a un tas de trucs à faire et c'est les femmes qui doivent le faire. Et il y a... Hein? Non mais, là je suis pas d'accord avec toi, hein. On est deux sexes sur Terre, il faut mieux s'entendre, hein. Se taper sur la gueule, ça avance pas tellement à grand chose. Non, ce que je veux dire, c'est que oui, c'est pas de l'autogestion, c'est que déjà on a fait une expérience un peu pratique de l'autogestion dans les écoles, face à l'enseignement par exemple, dans les universités. Bon, de l'autogestion au niveau, je sais pas, par exemple, de l'organisation pour s'occuper des gamins. De l'autogestion dans les entreprises, je sais qu'il n'y a pas clip, il y a des entreprises où on essaye de faire travailler les femmes complètement sur leur boulot. Bon, je parle des femmes, c'est peut-être un sujet que je connais un peu plus. Bon, de l'autogestion au niveau, je sais pas, moi même si tu veux au niveau politique, mais sans que politique soit un méchant grand mot et que toi ou n'importe qui soit concerné par exemple dans sa commune ou dans son bled où il travaille, c'est tout. Bon, moi ce que je voudrais, c'est une expérience réelle, pratique, bien stable, bien terrienne de ce que vous appelez autogestion. Voilà. Ah, tout à l'heure aussi, il y a un truc sur lequel je ne suis pas d'accord, sur la boring. Vous avez dit qu'il fallait une hypothèse. Je ne suis pas sûre que le type qui a cassé pour la première fois une pierre, il s'est dit, tiens, si je tape là-dessus, ça cassera une pierre. Peut-être qu'elle est tombée. Ah ben, il avait touché une pierre. Peut-être qu'elle est tombée et qu'il a remarqué ça. C'est possible aussi, hein. Tout, enfin, je ne sais pas, c'est une éventualité.
Président, oui. Mon camarade, excusez-moi, je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas non plus un...
C'est un tort.
Quand je fais la vaisselle à la maison, je suis un manuel. Et quand je corrige des épreuves d'imprimerie, je suis quelque peu intellectuel, même quand je corrige des saloperies, et quand je corrige aussi des questions intéressantes comme cet après-midi, dans mon canard, à propos de littérature, parce que dans les quotidiens, on fait aussi un peu de littérature. En ce qui me concerne, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai travaillé 13 ans avec un petit bonhomme qui s'appelait Le Coin. Inscrit au syndicat des correcteurs de la CGT, je ne suis pas la CGT, je m'en excuse, mais j'ai envoyé Martin, mon épouse, avant 68, à la CFDT, d'accord avec le
Mais
en ce qui me concerne, il n'y a pas d'autogestion passive en système capitaliste.
On a bouché la
bouche. Comme tout un chacun. Et j'ai pas très bien compris. En ce qui me concerne, j'ai lu des tas de scientifiques, en particulier dernièrement, le sociologue McLuhan. Et j'avoue, et je l'ai écrit dans mon bulletin syndical, je dis mon parce que c'est malheureusement notre bulletin à faible diffusion sur une partie seulement des ouvriers de l'imprimerie. J'ai pas très bien compris la galaxie Gutenberg et j'attends que des scientifiques ou des techniques viennent m'expliquer pourquoi la civilisation écrite va disparaître au profit de la civilisation de l'image. Je pense à mon contraire avec Rabelais. Excusez-moi, je cite un marrant. Mais un marrant qui a écrit il y a 4 siècles. Déjà, science sans conscience n'est que ruine de l'art.
J'ai rencontré
2 savants d'origine française. Le premier est devenu notre ami, à mon épouse et à moi. Il s'appelle Paul Rivet. Paul Rivet est l'un des plus grands anthropologues du monde. Il était sadique, en dehors de l'anthropologie, de l'ethnologie. Je suis comme vous. Et je la trouve monstrueuse. J'étais au musée de l'homme ce jour-là, lui rendre visite. Je trouve monstrueux qu'un ouvrier monteur de majeur soit obligé de venir le dimanche matin, alors que la plupart des travailleurs sont dans leur lit ou bien à leurs loisirs respectifs, Et c'est cela le fond du problème. Moi, j'ai lu à tous ce trait, puis quand j'ai lu Le meilleur des mondes, j'ai eu un cafard épouvantable. J'avais alors 26 ans. En 1950, je dis, c'est pas possible. On va faire une démocratie épouvantable. On va crever dans un monde où l'on s'emmerde. Excusez-moi.
La gueule ouverte.
Il ne faut pas décider de l'avenir des utopies. Il faut bâtir de nos mains quelque chose à un visage humain. Il faut construire à l'échelle planétaire. Et là-dessus, nous sommes des utopistes, les anards. Et on n'a pas fini d'emmerder les dirigeants syndicaux. C'est-à-dire, le syndicalisme ne se suffit pas à lui-même, comme l'avaient décrit les pionniers à une certaine époque. Mais le parti politique n'est pas du tout le complément du syndicat, c'est ce qu'on empilote. Et la science, vous m'entendez, camarades intellectuels ou manuels, parce que pour moi, il n'y a pas de différenciation, sauf le salaire. Nous, les Annales, avec un cher Damien qui n'est pas dépassé, contrairement à certains hurluberlus qui nous chantent tous les jours dans l'Observateur et ailleurs. La charte de Damien, qu'est-ce qu'elle prévoit? Dans l'immédiat, la lutte pour le pain quotidien, la lutte contre la diminution, pour la diminution des heures de travail, pour la réduction effective du temps de travail dans la semaine, dans la vie humaine et aussi dans l'année, pourquoi pas les loisirs, mais pas les loisirs du club méditerranéen, les loisirs libres, un homme libre dans une cité libre. En attendant l'utopie de demain, c'est-à-dire un socialiste très large, parce que moi je suis pas sectaire. C'est peut-être la vieillerie, parce que j'ai dépassé le demi-siècle, mais je suis aussi jeune que vous. Alors, le problème posé par le point, désarmement unilatéral de la France. Une utopie en 75, mais pas du tout utopique quand on pose avec Muller, Bollardière et d'autres le problème de la reconversion des usines d'engins de mort en instruments
d'industrie.
Il faut utiliser, capter toutes les énergies, autant que possible. Éviter le nucléaire, mais est-on si sûr qu'on peut éviter le nucléaire? Il va y avoir un phénomène de ras-le-bol du petit écran. Ça commence déjà entre les jeunes de 15 à 20 ans. Moi, je demande une chose. C'est qu'on commercialise au sens pas vulgaire du terme dans une économie de marché, mais dans une économie véritablement socialiste, au sens le plus large du terme. Hein. Une possibilité d'accès à la culture par les formidables moyens d'information que sont ce que l'on appelle les masses médias. Et je demande qu'on retourne aux livres, mais aux livres à bon marché, aux livres pourquoi pas dans les présuniques, aux livres dans toutes les localités, et que le journal cesse d'être une pourriture.
T'en as pour combien de temps, ça dit ?
D'éducation, d'information et d'action. J'en ai terminé.
Dire un mot par rapport à l'intervention précédente, celle de notre camarade qui dit mais je souhaiterais que l'on parle d'une expérience d'autogestion bien terrienne, quelque chose de concret. Et je crois qu'effectivement c'est un rêve, un vœu qui actuellement dans le monde est vécu de deux façons différentes et seulement de deux, je crois. L'une qui me semble sans espoir, c'est celle des petites communautés
qui, ne voyant pas comment remuer la masse de la société, vont faire leur contre-société, leur communauté intéressante, souvent du point de vue justement de l'expérience, des relations, de voir comment le monde extérieur détruit peu à peu cette communauté, comment finalement on ne peut pas réellement démocratiser, répartir le pouvoir dans un petit noyau si tout autour les conditions économiques et politiques ne sont pas créées, notamment la socialisation, pas seulement des moyens de production, mais aussi des moyens de communication et du pouvoir lui-même. Et puis il y a une deuxième expérience quand même dont on ne parle pas assez, qui est l'expérience yougoslave. Car il est de bon ton aujourd'hui dans les milieux intellectuels de dire la Yougoslavie, bof. Ben, la Yougoslavie c'est quand même un pays qui avec des difficultés énormes depuis maintenant 25 ans expérimente la marche à l'autogestion. L'expérimente dans la douleur. Notamment parce que c'est un pays inséré, du fait de sa taille, dans une économie internationale dont il est fortement dépendant, aussi parce que c'est un pays où le système politique repose sur un parti unique, et la contradiction entre l'autogestion des entreprises et le rôle du parti est une des contradictions importantes qui fait qu'actuellement, les Yougoslaves changent leur constitution régulièrement, tous les 3-4 ans. Mais c'est justement cela, l'expérimentation réelle. Et si je prends cet exemple, c'est justement pour vous dire que nous n'entendons pas rêver l'autogestion. Rêver l'autogestion, c'est rejeter aussi bien les communautés hippies que l'expérience yougoslave. Vouloir construire l'autogestion, c'est regarder. Regarder ce que font les autres tout en agissant nous-mêmes, en tentant de nous inspirer de ce que cela peut nous apporter. Je veux dire, cette démarche extrêmement pratique, finalement, est indispensable. Sans elle, on ne pourrait pas progresser. C'est pourquoi toutes les expériences terriennes, qui commencent encore une fois dans la lutte quotidienne, dans l'entreprise ou dans le quartier, ces expériences terre à terre, sont le matériau irremplaçable sur lequel on ne construira pas d'autres.